carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Visite guidée de l'exposition Balthus à la Fondation Pierre Janada à Martigny par Marta De Giacomi. Cette année 2008 marque le centenaire d'une grande figure de l'art du XXe siècle, Balthus, né un 29 février 1908 à Paris, sous le nom de Balthazar Klossowski de Rola. La Suisse, sa terre d'élection, honore sa mémoire à la Fondation Pierre Janada à Martigny, dans les Vallées, en lui consacrant une importante rétrospective de son œuvre. Notons que c'est l'unique institution officielle à fêter la naissance, il y a 100 ans, de ce peintre moderne, l'un des plus mystérieux et sans nul doute à contre-courant des tendances vers l'abstraction de son temps. Canal Académie s'est déplacé à Martigny pour rendre compte de cette manifestation exceptionnelle et vous la faire partager. Une historienne de l'art attachée à la Fondation Pierre Janada, Marta De Giacomi, a la gentillesse de nous présenter les principales œuvres de Balthus, depuis ses premiers dessins à l'âge de 11 ans, jusqu'aux dernières toiles exécutées au Grand Chalet à Rossinières. La prise de son est parfois perturbée par l'ambiance sonore des salles d'exposition. C'est que les visiteurs sont fort nombreux à la Fondation Pierre Janada. Par avance, nous prions donc nos auditeurs d'excuser la gêne que cela peut occasionner. En compagnie de Marta De Giacomi, donc, découvrons cette remarquable rétrospective de Balthus.
C'est vrai que c'est une magnifique exposition, très belle rétrospective Balthus, que nous avons organisée pour le 100e anniversaire de la naissance de Balthus. On se rappelle, Balthus est né le 29 février 1908 à Paris. Nous avons rassemblé des grands musées du monde entier, donc des œuvres de grande importance, des œuvres qui viennent des grands musées du monde entier. Par exemple, nous avons ici la rue du Museum of Modern Art à New York. Nous avons des prêts du Metropolitan Museum à New York, des prêts également du Centre Georges Pompidou à Paris qui nous a prêté le fameux tableau de la toilette de Cathy, 1933 également. Nous avons des prêts aussi de la Tate Gallery à Londres, de Edinburgh, de Washington, bref, de partout. Et en plus, nous sommes la seule institution au monde donc, qui, à l'occasion du 100e anniversaire de Balthus, organise une exposition. Alors, le visiteur peut découvrir ici près de 50 peintures à huile, ce qui est énorme, puisqu'on sait que Balthus a relativement peu peint, comparé à d'autres artistes comme Picasso ou Matisse, qui ont énormément produit. Alors, on estime les œuvres de Balthus, les huiles, près de 700 ou 750 tableaux. Ça veut dire 1 sur 7 se trouve dans cette exposition à Martigny. Ces huiles, nous les avons complétées avec près de 75 lithographies. C'est vrai que c'est une rétrospective très complète avec des œuvres de grande importance.
Nous sommes dans la galerie des dessins et des photos, dans la partie souterraine de la Fondation Pierre Janada à Martigny. Première pause devant le panneau de 40 lithographies nommé Mitsu. Balthus, tout jeune, révèle déjà son talent de dessinateur dans cette série d'images, une sorte de bande dessinée qui raconte l'histoire d'un garçonnet et des aventures de son chat Mitsu. On sait la passion que Balthus a pour cet animal énigmatique auquel il s'est toujours identifié. Marta De Giacomi commente.
Mitsu, 1919 d'abord. Donc, Balthus, à l'âge de 11 ans, réalise une quarantaine de planches appelées Mitsu. Dans ces planches, il invente l'histoire d'un jeune garçon qui, à Nyon, parce que l'histoire se joue en Suisse, qui, à Nyon, va découvrir un chat et il va vivre un tas d'aventures avec ce chat qui, à un moment donné, disparaît, qui réapparaît de nouveau. Ici, donc, c'est la fête de Noël avec ce chat. Et surtout, l'histoire se termine avec la 40e planche, le garçon a perdu le chat à jamais et pleure de chaudes larmes. Mais surtout, la qualité de ces lithographies n'ont rien à envier aux lithographies d'un Pierre Bonnard, d'un Félix Vallotton ou d'autres artistes de la revue Blanche, donc d'une maturité extrêmement précoce. Et ceci a reconnu Rainer Maria Rilke qui, 2 ans plus tard, va les faire publier. Regardez, nous avons ici dans la vitrine justement l'ouvrage Mitsu, 40 images par Balthus, avec une préface de Rainer Maria Rilke. Et justement, c'est Rainer Maria Rilke qui était en plus l'amant, donc qui avait une liaison amoureuse avec la mère de Balthus et de son frère Pierre. Donc, il a déjà tout de suite compris ce talent précoce de Balthus et va tout faire pour l'encourager donc, de continuer. Et en ce qui concerne Mitsu, l'histoire d'un chat, n'est-ce pas? Donc, on verra que le chat sera l'animal fétiche de Balthus, un animal avec lequel il va jusqu'à s'identifier. On verra ça plus tard devant le fameux portrait, en fait, le chat de la Méditerranée. Balthus est fasciné par ce chat, en fait, par le chat en général, un chat qui est un animal indépendant par rapport au chien, qui lui s'attache au maître, mais le chat garde toujours un certain anonymat, garde son indépendance, mais lorsque le chat est intéressé, lorsque le chat veut quelque chose, et ça, je vous montrerai devant le tableau le lever, là, le chat se manifeste et vraiment montre avec un regard presque électrique, n'est-ce pas? Et quelque chose de fabuleux. Mais ça, on va voir lorsqu'on se trouve devant le tableau en question.
Nous passons ensuite à une série de photos signées Henri Cartier-Bresson, grand ami et photographe attitré de Balthus.
Alors, dans ces photos de Henri Cartier-Bresson, n'est-ce pas, ce sont des photos qui datent de 1990, donc Balthus à ce moment-là donc a pas tout à fait 90 ans, peut-être 82 ans. Et là, regardez bien ces photos, l'expression, n'est-ce pas, il a cette tête de chat, n'est-ce pas, il a vraiment une tête de félin, de chat. Alors, ce n'est point étonnant que Balthus aimait bien, donc allait jusqu'à s'identifier avec cet animal. Et regardez aussi la photo ici, on voit Balthus assis sur son canapé dans le grand chalet à Rossinière, et là, en train de caresser le chat. Et regardez ce chat avec son nez, son museau, n'est-ce pas? C'est exactement en fait la même tête que Balthus lui-même, n'est-ce pas? C'est ça, ce côté très félin, les yeux très perçants. Et vous verrez aussi dans certaines œuvres de Balthus, lorsqu'il représente un chat qui est intéressé, donc ça se voit très bien.
Oui.
Et là, nous avons une superbe photo de sa fille, Balthus, avec sa fille Harumi, d'ailleurs, qui est venue hier à la Fondation, qui a maintenant 35 ans, et d'ailleurs qui a accouché un jour avant le vernissage.
Ah, oui.
Oui, donc le vernissage avait lieu le lundi 16 juin, et elle a accouché de son enfant le dimanche 15.
Tout est lié.
Tout est lié, exactement.
Dans l'invisible, comme dit si bien Jean-Claire, n'est-ce pas, dans sa préface.
Oui. Absolument.
Nous remontons vers une salle réservée aux dessins de Balthus illustrant le roman « Léo de Hurlevent » d'Émilie Brontë, un thème qui souvent a été repris ultérieurement dans les grandes toiles de Balthus.
J'aimerais vous montrer aussi les dessins par rapport au roman « Léo de Hurlevent » ou bien « Wuthering Heights » en anglais. Et là, j'aimerais vous rendre attentif à l'expressivité de ces dessins. Alors, on va peut-être juste tourner ici à droite.
Oui.
Il faut dire que Balthus aimait lire. Il avalait les livres, les bouquins lorsqu'il était très jeune. Et parmi ses lectures préférées étaient, entre autres, des livres comme Alice dans le Pays de Merveille de Lewis Carroll. Et surtout un livre aussi qu'il connaissait par cœur, qu'il avait lu plusieurs fois. C'est justement Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Et là, regardez cette série de dessins qui, d'une manière très expressive, n'est-ce pas, très gestuelle, regardez, en fait, illustre les passages importants du livre. Et là, j'attire votre attention, parce qu'on va revenir tout à l'heure dans la grande salle d'exposition, sur un tableau qui reprend le même sujet. Alors ici, justement, la fameuse scène qui s'appelle en français « Alors, pourquoi portes-tu cette robe de soie ?» On voit sur ce dessin, à gauche, le héros Heathcliff, vous vous rappelez Heathcliff, qui lui sème le désordre dans une famille qui s'amourache de femmes d'une manière presque malsaine et qui sème le trouble un peu partout, qui mélange sentiments, etc. Et là, nous avons Heathcliff qui pénètre dans la pièce de Cathy, qui, elle, est en train de se faire toute belle. Elle porte une superbe robe en soie. Elle est en train de se faire coiffer par sa gouvernante parce que Cathy, en fait, avait rendez-vous avec son prétendant, Mr. Lyndon. Et alors, Heathcliff la regarde. Il a ce regard très dubitatif. Il n'est pas content du tout parce qu'il sent que quelque chose ne joue pas tout à fait en rond. Alors, il pose la question parce que Balthus écrit en anglais dans le texte, donc des phrases clés sous chaque dessin. « Why have you put that silk frock on then? » Pourquoi est-ce que tu portes cette robe en soie? Et elle répond pas. Et regardez déjà ici dans ce dessin, on a ces tailles excessivement minces, très maniérées, que Balthus adaptera aussi plus tard pour ses modèles d'adolescents. Alors on va garder en mémoire ce dessin et puis on va remonter maintenant et puis comparer ce dessin par rapport à la grande composition qu'il va peindre quelques semaines, quelques mois plus tard.
Marta De Giacomi nous expose maintenant le parallèle entre ce dessin des Hauts de Hurlevent et le grand tableau « La toilette de Cathy ».
Maintenant, on se trouve devant le tableau en question. Donc, on avait vu ensemble tout à l'heure le dessin. Alors ici, dans cette grande composition, donc, la même scène prend un caractère tout à fait autobiographique puisque là, on voit maintenant Cathy totalement nue sous une robe de chambre en soie, ce qui augmente un peu la charge érotique. En plus, elle a les seins bien dressés, en sec, sans poils. Et là, donc elle est en train de se faire coiffer par sa gouvernante. Alors cette fois, justement, sous les traits de Cathy, on reconnaît le portrait d'Antoinette de Watteville, qui était sa première passion amoureuse, une femme qu'il va marier, épouser donc en 1937. Mais en 1933, donc Antoinette de Watteville était fiancée avec un diplomate belge et ne répondait pas à ses lettres. Alors justement ici, donc, on reconnaît le trait d'Antoinette de Watteville, dont vous avez le portrait juste à côté, 1932, donc pas une année auparavant, qui se fait coiffer par cette gouvernante, mais qui a les traits de Baladine, donc de la mère de Balthus.
Ah oui.
Et ensuite, à gauche, là nous avons donc sous les traits de Heathcliff, cette fois le personnage masculin n'est pas en train de regarder les deux dames, contrairement au dessin,
oui,
mais il a son regard un peu absent, très très sournois, il n'est pas content du tout. Donc il s'agit en fait de Balthus lui-même. Et ce qui est encore plus intéressant, dans une lettre à son père, parce que Balthus a toujours gardé les contacts avec son père, de l'historien d'art Erich Klossowski, il écrit au sujet de ce tableau que les deux femmes à droite avaient un teint presque transparent, beaucoup plus clair, tandis que le personnage masculin à gauche a un teint beaucoup plus foncé. Et pourquoi est-ce que les deux femmes ont le teint presque transparent? Parce que c'est une vision, elles sont symboliques et qu'en vérité, l'homme se trouve seul dans la pièce et s'imagine la scène, donc à droite.
Avec ses pensées et ses interrogations.
Tout à fait, ouais. Exactement. Parce qu'il était très, très perturbé de cette liaison avec Antoinette de Watteville à tel point qu'il en a non seulement fait une dépression, mais il a même essayé aussi de se suicider. Heureusement, donc, il n'a pas avalé suffisamment de, je crois que c'était du laudanium. Donc finalement, en 1937, il va épouser Antoinette de Watteville, avec laquelle il aura donc deux fils qui sont Tadé et Stanislas, donc nés en 1942 et 1944.
Vous parliez de la toilette de Cathy, donc le fameux tableau de 1933.
Exactement.
Après un court intermède musical, nous allons découvrir d'autres œuvres majeures de Balthus. Nous continuons la visite guidée de l'exposition Balthus à la Fondation Pierre Giannada à Martigny grâce à notre guide éclairé, Marta De Giacomi, historienne de l'art.
Il y a un autre tableau que je trouve encore plus important, c'est donc la rue de 1933. C'est le tableau le plus important de Balthus qui est chargé d'histoire. Balthus lui-même, lorsqu'il avait achevé ce tableau, avait dit que c'était la première composition importante en tableau avec lequel il avait pour la première fois réussi d'exprimer ce qu'il avait à dire. Alors il parlait en plus de ce tableau en tant que manifeste plastique dans lequel il a exprimé les sentiments primitifs et primordiaux. Alors maintenant, La rue 1933, c'est le premier tableau de Balthus qui va entrer dans les collections américaines, puisque le collectionneur Thrall Sobey va l'acheter en 1937. Un an plus tard, Thrall Sobey deviendra le directeur du MoMA, du Museum of Modern Art à New York, et organisera une rétrospective Balthus en 1956. Mais il faut savoir qu'à l'origine, vous voyez le couple, donc cette scène de viol, si vous voulez, la jeune fille qui s'est fait molester par le garçon par derrière. Donc au départ, la main du garçon était directement posée sur le sexe de la jeune fille. Alors vous savez que les Américains sont très sensibles en ce qui concerne des gestes obscènes. Alors pour pouvoir exposer le tableau à New York, dans cette rétrospective au MoMA, Thrall Sobey va demander à Balthus de retoucher le geste. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Donc la main donc, a été placée un peu plus haut.
Et sur une jupe.
Sur une jupe, exactement, en plus. Alors maintenant, ce qui est fascinant ici, nous sommes en présence d'un lieu topographique réel, puisque c'est la fameuse rue dans le vieux Paris, Bourbon-le-Château, animée de personnages qui, comme des marionnettes, comme des somnambules, marchent dans la rue sans véritablement communiquer, sans se regarder, à part la scène de viol à gauche, qui est d'ailleurs comparée par des experts de l'histoire de Alice dans le Pays des Merveilles, qui se ferait molester par Twildom. Bref, regardez ici au milieu, droit au milieu de la composition, nous avons ce personnage en blanc qui, comme un fantôme, se dirige et porte une planche en bois. Donc cette planche, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas de cette manière-là qu'on porte une planche en bois, qu'on porte une charge, n'est-ce pas? Une charge, on la porte sur une épaule, et puis la position de main, elle est normalement placée autrement. Alors nous avons ici une citation directe de la fresque du Piero della Francesca, un peintre donc, qui l'a énormément, de la Renaissance italienne, donc directement inspirée de la descente de la croix. Et regardez maintenant, vous voyez ce jeune garçon au milieu, qui a ses yeux droits, fixés droit devant lui, qui ne regarde ni à gauche ni à droite. Donc c'est Jean-Claire qui a découvert qu'il s'agit du Théophile dans la grande fresque de Masaccio dans la Cappella Brancacci à Florence. D'ailleurs, à Florence où Balthus s'est rendu en 1926 et à Florence où il avait en plus donc, réalisé de nombreuses copies que nous avons exposées au début de l'exposition.
Il y a encore d'autres personnages.
Oui, donc une femme qui porte un jeune garçon, n'est-ce pas? Donc là aussi, qui porte cet enfant, n'est-ce pas? Qui est petit, mais qui est quand même des traits presque un peu masculins, assez énigmatiques. C'est vraiment une absence de communication. Peut-être aussi, nous sommes en 1933, il y a toute une délégation de surréalistes, dont Giacometti et quelques autres amis, qui vont se rendre dans l'atelier des Balthus et qui sont pratiquement consternés devant ce tableau. Mais Balthus, il faut souligner, n'a jamais, jamais voulu adhérer au surréalisme. Il voulait faire partie d'aucun mouvement parce qu'il disait « Je ne veux pas m'exprimer moi-même, je ne veux pas peindre les expressions de moi-même, je veux peindre le monde, je veux peindre ce que je vois. » Il a vraiment voulu adhérer au mouvement surréaliste.
Oui. Donc on était devant la caserne et on a évoqué l'occasion donc de Balthus, de son style un peu inclassable. On a quand même évoqué éventuellement de Chirico.
Oui, tout à fait. Nous avons cette même atmosphère, ambiance un peu étrange qu'on trouve aussi chez de Chirico, avec cette luminosité très intense, cette luminosité désertique qui évoque aussi la chaleur. Il faut dire que Balthus a peint la caserne en souvenir de son service militaire au Maroc. Il s'est rendu en 1930 d'abord à Kendara, ensuite il est allé à Fès, mais c'était pour lui plutôt une mauvaise expérience. Il n'était pas très heureux de son service militaire.
Après ces trois œuvres exécutées en 1933, d'inspiration si différente entre la toilette de Cathy, la rue au MoMA à New York et cette lumineuse caserne, notre regard est attiré quelques pas plus loin par une scène étonnante de sensualité. Martha De Giacomi.
Thérèse Revan, 1938. Alors là, nous avons justement Thérèse Blanchard, la fille du concierge, seule dans une pièce, entre les yeux fermés, en train de rêver, totalement absorbée par ses pensées, par ses rêves. Elle semble totalement se ficher d'éventuels regards indiscrets qu'on pourrait poser sur son entrejambe, puisqu'on voit très très bien donc sa petite culotte. Et donc justement, son entrejambe est enveloppée par la jupe rouge et blanche, comme une corne d'abondance. Et là, pour augmenter la charge érotique, regardez, sous son entrejambe, un chat est en train de boire son lait. Alors, et tout ceci à gauche, contrebalancé par la nature morte, assez rigide, qui rappelle un peu le style de Morandi, on pourrait dire. Oui. Et surtout, regardez le tissu aussi, on dirait un tissu peint par Paul Cézanne. Et on voit plusieurs fois cette référence par rapport à Paul Cézanne dans certaines œuvres de Balthus, notamment dans le premier paysage qu'il a peint à l'âge de 15 ans, le paysage à museau, donc peint ici en Valais, lorsque Balthus se trouvait dans la maison de Rainer Maria Rilke en 1920 et quelques.
Ce que vous évoquiez tout à l'heure à l'occasion des planches Mitsou.
Tout à fait, exactement.
Un autre tableau à l'aspect stupéfiant, dont le style et les couleurs contrastent fortement avec la facture des autres toiles, le savoureux chat de la Méditerranée.
Ce tableau, Balthus l'a peint 2 ans après en souvenir d'un déjeuner dans le midi de la France à Juan-les-Pins, un restaurant au bord de la plage, un déjeuner avec donc, Picasso, l'ami de Picasso à l'époque qui était François Giot, et donc l'ex-femme de l'écrivain Georges Bataille, Sylvia Bataille, je ne me rappelle plus de son nom, et leur fille Laurence Bataille. Donc elles étaient ensemble, etc. Et 2 ans plus tard, en fait, Balthus réalise ce tableau qui devait servir d'enseigne pour un grand restaurant à Paris que tout le monde connaît, la Méditerranée, place de l'Odéon. C'était pour ce restaurant-là, où on sert des spécialités, donc du midi de poisson, etc. Et regardez, c'est tellement drôle, parce que nous avons ici Balthus lui-même, en chat, qui est assis devant cette table, comme un gangster prêt à l'attaque, avec sa bouteille de rosée. Et depuis un arc-en-ciel, les poissons sont en train d'atterrir sur son assiette. Et vous savez ce qui est amusant, ces poissons, en fait, la catégorie des poissons sont ceux qu'on utilise pour faire la bouillabaisse ou la rascasse. Et regardez aussi cette grande langouste qui dirige ses antennes vers Laurence Bataille, puisque Laurence Bataille va devenir la compagne, l'amie pendant quelques années de Balthus, exactement. Parce que Balthus, entre-temps, s'était séparé de Antoinette de Watteville. Leur mariage avait duré 9 ans, donc il a enchaîné avec Laurence Bataille. C'est vrai, c'est un tableau très lumineux et surtout, regardez, nous avons accroché à côté. C'est ici, il s'agit du dernier autoportrait. En 1949, Balthus a ici 41 ans. Il n'est pas tout à fait achevé, mais peu importe. Mais regardez surtout la tête. Et nous l'avons accroché. Donc tout ceci, évidemment, Jean Clair, qui est le commissaire de l'exposition. Alors, et c'est tellement évident. C'est le même regard, c'est le même personnage, c'est le même nez. Donc voilà, de nouveau, ce côté félin.
C'est donc un autoportrait de 49, oui.
Exactement, c'est son dernier autoportrait. On avait parlé tout à l'heure, on avait regardé ensemble le fameux tableau La Rue, 1933. Oui. Alors, 20 ans plus tard, Balthus reprend le thème de La Rue dans une gigantesque composition, Le passage du commerce sans entrée, peint entre 1952 et 1954. Nous avons aussi dans cette grande composition cette même atmosphère féerique, étrange, de nouveau un lieu topographique existant, c'est le passage commerçant d'André, animé de personnages, en fait les 4 générations sont bien présentes, nous avons ici un bébé, un très jeune enfant, ensuite un enfant, cette jeune fille qui au premier plan à droite est en train de songer, de réfléchir, de nouveau elle a été comparée avec Alice du Pays de Merveille qui cherche la clé d'or et regardez la clé, elle est la clé du paradis, la voici sur le mur au milieu de la composition. Et nous avons ensuite donc personnage adulte et personnage très âgé. Donc la personne adulte avec son pull bleu et la baguette de pain dans sa main serait Balthus lui-même qui habitait tout près et qui achetait son pain, sa baguette ici. Et là, il est vraiment, c'est comme un magicien qui, avec sa baguette dans la main, le dos à cette scène magique.
Et tout à fait insolite parce que chaque personnage a l'air d'être irréel et enfermé en lui-même.
Exactement. Donc, il n'y a pas vraiment de communication non plus, bon, sauf les 2 enfants à gauche qui jouent, mais ce sont des personnages effectivement qui sont un peu isolés, qui vivent dans leur monde. Alors, ce qui est très intéressant, le lieu aurait joué pendant la Révolution française un rôle, puisque c'est ici tout près, je crois au numéro 9, qu'on fabriquait des guillotines, et ces guillotines étaient expérimentées sur des anneaux. Et regardez maintenant au milieu, un peu comme dans la rue de 1933, le personnage en blanc, vous avez ici exactement au milieu de la composition, un chien, mais qui ressemble à un agneau. Donc, on a de nouveau cette notion, cette idée
du sacré qu'on trouve dans la peinture italienne.
Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, donc, oui, c'est vrai qu'il est vraiment énorme, ce tableau, oui. Très, très grand. D'ailleurs, avant de l'accrocher ici, on a vraiment pris des mesures au millimètre près. C'était une histoire de millimètre de rentrer ce tableau dans la fondation, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir l'exposer. Mais donc, ça a joué. Non, sinon, on aurait dû renoncer au prêt.
Avant de terminer notre visite guidée de l'exposition Baltus à la Fondation Pierre Giannada à Martigny, Marta de Giacomi attire notre attention sur une des dernières grandes toiles du maître, le lever de...
Alors, nous sommes ici devant le dernier grand tableau donc, de la salle d'exposition, Le lever d'eau, peint entre 1975 et 1978. Il faut dire, Baltus a été nommé directeur de l'Académie de France à la Villa Médicis à Rome. Il était en charge d'organiser des expositions. Il avait très peu de temps pour peindre. Donc, d'ailleurs, il partira en mission au Japon en 1962, où il va connaître sa femme Setsuko Hidetta, avec laquelle il va ensuite s'installer en Suisse au Grand Chalet à Rossinière en 1977. Alors justement, pour revenir au lever, commencer à Rome et terminer au Grand Chalet en Suisse. C'est une œuvre tardive. D'ailleurs, vous voyez maintenant, son style pictural a complètement changé. Il mélange davantage sa matière picturale avec du plâtre, avec du sable, comme il disait, pour obtenir l'effet des fresques du Quattrocento italien. D'ailleurs, vous voyez aussi, la matière devient très, très fragile. Et regardez, on voit ici, donc, le sujet représente une jeune fille qui... totalement nue, s'amuse dans son lit, sur les draps de fait, avec un oiseau en bois. Elle tourne une manette, n'est-ce pas, de manière à ce que les ailes de l'oiseau se rabattent et remontent. Et regardez maintenant, en face de l'oiseau, vous avez ce chat qui sort comme un fauve de sa cage et qui regarde sa proie, vraiment, regardez ce regard, n'est-ce pas, vraiment presque hallucinant, n'est-ce pas, qui regarde sa proie et est prêt à l'attaque. Alors justement, Baltus aimait les chats, parce que le chat, donc, comme dans ce tableau, donc, il s'y manifeste d'une manière très expressive son intérêt par rapport à la proie. N'est-ce pas? Et puis aussi un animal avec lequel, comme on avait vu tout à l'heure, avec lequel Baltus aimait bien beaucoup s'identifier lui-même.
Oui.
Voilà, c'est vrai, c'est une superbe composition, justement, donc une œuvre qui est très caractéristique de sa période, si vous voulez, un peu tardive.
Mais qui a donc été exécuté sur plusieurs années.
C'est entre 75 et 78.
Ah oui.
Donc en 75, on se rappelle, Baltus était encore à Rome, à l'Académie de France à Rome. D'ailleurs, il a totalement rénové la Villa Médicis. Il était fasciné par la Renaissance italienne. Et les jardins aussi, il les a totalement refaits à la manière de la Renaissance italienne. Et ensuite, Baltus s'installe donc au Grand Chalet à la Rossinière, ce somptueux, gigantesque chalet, je dirais peut-être même le plus grand chalet en Europe, dont le toit a une superficie de 950 mètres carrés, 100 et quelques fenêtres. Non, le chalet est impressionnant et très ancien. Et le grand chalet a été construit entre 1752 et 1754 et acheté par Baltus et Setsuko en 77. Il se trouve au village de Rossinière, en fait ce qu'on appelle le pays d'en haut, dans le canton de Vaud, à la direction vers Bulle, dans cette direction.
En tout cas en Suisse.
En Suisse, oui.
Dans les Alpes.
Tout à fait, dans les Alpes.
Le grand chalet à Rossinière, toujours habité par l'épouse du peintre Setsuko et sa famille, est devenu la Fondation Baltus depuis 1998. Un lieu exceptionnel où ont été organisées plusieurs expositions importantes en relation avec l'œuvre du créateur, comme par exemple Le mystère des chats en 2007, ou La magie du paysage en 2006, ou Les dessins de Baltus en 2005, et bien d'autres encore. Un rappel pour nos auditeurs, l'exposition Baltus à l'occasion du centenaire de l'artiste se tient à la Fondation Pierre Giannada à Martigny en Suisse du 16 juin au 23 novembre 2008. une rétrospective de plus de 50 peintures et 75 dessins. Et c'est l'unique exposition officielle au monde à commémorer cette année anniversaire.